Parce que le récit évangélique du jour est bref, je vais employer une méthode dont je n'use pas habituellement, la lecture verset par verset, ou pas à pas, une lecture qui ne prétend pas connaître avant que de commencer à découvrir, une lecture qui se méfie en somme du désir de totalité, comme celui qui irait prétendre vous livrer le sens d'un texte, et pourquoi pas, avec un même engouement, le sens de votre vie. Aujourd'hui, ce sera la méthode du pas à pas, où chaque pas engrange de la nourriture, et où tout ira peu à peu se sédimenter, à l'instar, cette fois, d'une vie, d'une existence, où chaque pas se vit sous une lumière différente, justement à cause de la distance entre le pas où nous sommes et le pas précédent. Et je regardais cette lumière tout à l'heure et je la découvrais une nouvelle fois pour la première fois. Donc on commence, c'est le verset 40, mais je l'appelle le premier verset. Un lépreux vient à lui et se mettant à genoux, il le supplie. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. En grec, la langue du Nouveau Testament, le lépreux, c'est celui qui est littéralement couvert d'écailles. Du moins, c'est ce qu'on pouvait entendre à travers ce mot, lire à travers ce mot quand on parlait la langue grecque. Une sorte de monstre, donc, qui, pour le bien de la communauté, est rejeté aux portes de la ville où il est condamné à vivre de l'aumône. Certes, si on ne connaît rien à cette époque de ce qui ne s'appelle même pas encore une maladie, et si celle-ci n'est d'ailleurs pas forcément la lèpre que nous connaissons de nos jours, on sait néanmoins, alors, sans y mettre le mot, qu'elle est contagieuse, cette chose, et ce, par le toucher. Cet être qui n'a pas de nom dans le texte, mais qui n'a non plus de place, ce mort social vivant implore donc Jésus, mais peu le dénote, il l'implore d'une façon manipulatrice. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Pourquoi manipulatrice? Vous l'avez déjà sans doute entendu. Eh bien, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui sait que vous avez de l'argent et donc vous en demande. Si tu le veux, tu peux me donner 1000 euros. Vous êtes donc convié soit à mentir, je ne peux pas. Mais le regard de votre quémandeur vous signalera qu'il sait que vous mentez et pourrait même se débrouiller de le montrer publiquement. Soit vous êtes obligé de répondre « Non, je ne veux pas. » Ce qui serait d'ailleurs la meilleure réponse à fournir, à condition, c'est une parenthèse, de ne pas prolonger votre réponse par « Je ne le veux pas car je pense que ce serait bien pour toi que tu apprennes à gérer ton budget. » Pour en finir avec ce premier verset, le pur de « tu peux me rendre pur » a donné du grec en français le mot « cathartique »,« kata », »,« catharsis ». Il s'agit ici d'une pureté qui s'affronte, on va dire, à la chair, à la matière, contrairement à d'autres mots qui évoquent par ailleurs la situation de pureté sous un aspect un peu plus spirituel, cette pureté, par exemple, dans laquelle les élus doivent se retrouver au jour du retour du Christ, qui est évoqué, par exemple, dans la lettre aux Philippiens. Voilà. Donc, continuons. Maintenant, deuxième verset de ce récit. Ému, il tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Comme vous l'entendez, Jésus ne tergiverse pas et le veut. On peut d'ailleurs se demander si, ne l'ayant pas voulu, l'anecdote aurait été rapportée dans les évangiles, mais de fait, il n'y a aucune anecdote où Jésus ne veut pas du tout guérir quelqu'un. Mais le plus intéressant de ce verset, c'est d'abord son premier mot, et sous deux aspects, vous verrez. Le mot « ému », littéralement, atteint dans ses entrailles, atteint dans sa matrice, comme une mère archétypale devant son enfant souffrant. Certains traduisent par « pris aux tripes », mais il s'agit bien ici des entrailles en général, dont il ne faudrait pas, trop rapidement, exclure l'utérus. Mais ça, les traducteurs, c'est souvent des hommes. Alors certes, ce type d'émotion est intéressant et elle permettrait à l'interprète d'évoquer ce que je pourrais appeler l'aspect féminin de la grâce et de citer quelques textes de l'Ancien Testament qui parlent autour de la miséricorde de Dieu et qui utilisent un mot « rahamim » qui désigne les entrailles, le sein maternel, l'utérus. Un texte, par exemple, comme celui-ci, tiré du livre du prophète Jérémie. Éphraïm, c'est un autre mot pour dire Israël, Éphraïm est-il donc pour moi un fils si cher, un enfant tellement préféré, pour qu'après chacune de mes menaces, je doive toujours penser à lui et que mes entrailles s'émeuvent pour lui, que pour lui déborde ma tendresse. C'est Dieu qui parle. Oui, ce mot désigne le lieu de la passion et quelle que soit la forme de celle-ci, ce qui montrerait déjà que le simple « ému » que nous avons dans notre traduction est une très mauvaise traduction. Ça, déjà, c'est un fait. Mais en plus, il y a un problème. Il y avait à cet emplacement précis du texte ce qu'on appelle d'autres leçons. Ça concerne les manuscrits, des versions de manuscrits considérées comme plus anciennes, mais qui n'ont pas été retenues quand il s'est agi de présenter un texte grec correct, je dirais en l'occurrence religieusement correct, si je peux me permettre. Je vous le révèle en français. Je vous traduis en français ce que disent ces autres manuscrits qui n'ont pas été choisis pour nos traductions principales. Il était écrit « Jésus, en colère, tendit la main ». Et oui, cela devait embarrasser de voir Jésus se mettre immédiatement en colère devant un pauvre lépreux quand même. D'où le travail des copistes et des recopistes pour faire de cette option pourtant la plus ancienne, la plus minoritaire. Alors, les interprètes que nous sommes vont devoir s'interroger sur les raisons de cette soudaine colère qui tombe sur quelqu'un quand même qui n'avait rien fait. Beaucoup alors se perdent en conjectures et évoquent qu'après cette guérison, c'est Jésus lui-même qui sera obligé de se réfugier dans les marges, comme si le lépreux avait contaminé Jésus en lui transmettant, non pas sa maladie, mais sa lèpre sociale. Mais dans le contexte immédiat de Marc, que nous avons entendu, ce n'est pas si évident, puisque si en effet l'ex-lépreux n'obéira pas à Jésus qui lui ordonnera d'aller voir les prêtres, mais ira plutôt raconter haut et fort partout ce qui lui est arrivé, et si la conséquence sera en effet que Jésus devra se réfugier aux marges de la ville, il s'agit ici plutôt des effets d'une célébrité soudaine qui va entraîner une affluence de demandeurs, de quémandeurs, et non pas d'une marginalisation de Jésus. En fait, cette première vague d'interprétation dit juste le contraire de ce qui est écrit. C'est quand même assez troublant. Donc, non. Pour moi, Jésus se met en colère immédiatement, tout simplement parce que cet homme lui a tendu un piège en lui disant « si tu le veux ». La même forme de piège que le diable tendra à Jésus lors de son épreuve dans le désert, dans un moment où il avait très faim. Vous savez, il avait jeûné pendant 40 jours. Le tentateur, le diable, lui dit « si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Et au moment de continuer notre marche dans ce récit, nous pouvons méditer, faire une pause, comme sur une route, on fait des pauses de temps en temps, méditer un peu sur la relation entre aidant et aidé, sur cette sorte de piège qui s'abat sur l'aidant potentiel qui se retrouve parfois obligé alors qu'il se croyait volontaire. Alors certes, on le veut, mais n'aurait-on pas été plus libre si notre volonté n'avait pas été prise au piège ? Jésus, il suffit de lire les évangiles, même rapidement comme ça, Jésus est sensible à la manipulation mentale et les pièges qu'il subira tout au long de son ministère, s'il nous offre à nous, lecteurs, et à chaque fois des éléments de résistance face à la manipulation, eh bien ces pièges finiront tout de même par se refermer sur lui définitivement pendant 3 jours, jusqu'à Pâques, et d'où le christianisme. Je trouve déjà que la récolte en 2 versets est assez agréable, est assez consistante. Que nous raconte le 3e verset ? Pas grand-chose. Aussitôt, la lèpre le quitta, il était pur. On va noter tout de même la concision de ce miracle, et c'est quand même une façon qu'a Marc, l'évangile de Marc, de décrire. C'est très net. J'aime bien cette phrase. Aussitôt, la lèpre le quitta, il était pur. Et voilà. Ensuite, au verset suivant, que je vais relire, Jésus, s'emportant contre lui, le chassa aussitôt. Donc on était content, et voilà que... Jésus, s'emportant contre lui, le chassa aussitôt. À cette fois, donc, les copistes, malgré leurs efforts, n'ont pu éviter la colère de Jésus. Parce que la deuxième fois, quand même, on ne va pas à chaque fois rayer le manuscrit de base. Une colère incompréhensible, du coup, s'il avait été au départ simplement ému. Comment passer du stade maternel à la colère brutale après une guérison ? Enfin, ça n'avait aucun sens. En fait, tout simplement, Jésus est toujours en colère contre cet homme qui, malgré sa guérison, n'est peut-être pas si pur que ça et qui, même pendant qu'il était atteint de sa lèpre, avait sans doute un autre problème d'impureté que celui de sa peau. La preuve, j'ose dire, cet homme continue à mal se conduire. Jésus lui dit, et c'est l'avant-dernier verset, en disant « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, ce sera pour eux un témoignage. » Mais lui, comme je vous l'ai dit plus haut, voilà ce qu'il fait, et c'est le dernier verset. Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer la chose haut et fort et à répandre la parole, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et on venait de lui de toutes parts. En cela, il me fait penser à ces haut-parleurs, ou ces beaux parleurs pour faire du jeu de mots, de sons, ou ces fanatiques qui, sous le prétexte qu'ils ont reçu quelque chose, une grâce, refusent de suivre les conseils qui seraient associés à cette réception d'une grâce. Par exemple, la première des choses, ce serait de remercier, de rendre grâce, l'ex-lépreux, qui avait bien su d'abord quand même se mettre à genoux pour aller voir Jésus, pour implorer, pour demander, une fois guéri, oublie ce qui serait cette élémentaire forme de politesse, dire merci. Non, lui, il ne remercie pas, ni ne suit les prescriptions de Jésus, qui sont aussi les prescriptions de Moïse, de la loi. Ce qui va permettre donc, à cause de son comportement, à d'autres ennemis futurs de Jésus de faire courir le bruit que Jésus encourage le non-respect de la loi. Non, lui, l'ex-lépreux, immédiatement, c'est le roi du monde. C'est presque un voleur de la grâce. C'est comme ça que j'ai envie de lire son comportement. Il vole la grâce qui s'échappe de Jésus. En fait, il était un manipulateur et il le reste. On pourrait pousser encore plus loin l'interprétation. Cet homme devient un symbole, le symbole de l'avenir de l'Évangile, quand une institution commencera à tort à se mettre à parler à la place de Jésus et se prétendra intermédiaire de la grâce. Alors, pour conclure par une conclusion qui ne se prétend pas totalisante, ce n'est pas d'un simple lépreux guéri par un Jésus miséricordieux qu'il s'agit ici. Il s'agit déjà d'une méditation offerte sur le statut de victime officielle et de la nécessité de faire le point. La maladie et l'impureté, l'impureté dans le sens biblique de ce mot, n'ont en fait rien à voir. On peut être impur et sain de peau, on peut être pur et malade, impur et malade, pur et sain de peau. Seul Dieu connaît les tréfonds de l'âme de quelqu'un. Mais ce récit est d'abord et avant tout l'annonce de la tragédie autour d'un homme, cette tragédie autour d'un homme qui commence à se retrouver pris dans les filets d'une mission qui le déborde. Et ce débordement va le conduire à être assassiné sur une croix infamante. Mais s'il n'avait pas été ressuscité, donc délivré du dernier piège qui lui avait été tendu, nous ne serions pas là aujourd'hui en train d'en parler, et ça, je le crois fondamentalement. C'est parce qu'il a été ressuscité, délivré de ce dernier piège, que nous sommes ici. Certes, ce qui ne nous empêche pas d'être intelligents et de nous nourrir des informations précieuses glanées au fil de certains textes, glanées, récoltées quand on analyse les faits narratifs, littéraires, et quand on regarde aussi leur réelle construction, par exemple, une construction qui avait été cachée dans le but de lisser l'image de Jésus et nous permettre de n'y rien comprendre. Amen.